n'avoir jamais ni Dieu ni chef.
A, B, C, D, E, F.
Ne croire au diable ni au ciel.
G, H, I, J, K, L.
Mais croire en l'homme et en la terre.
M, L, B, Q, L.
Rester seul à manifester. Aimer le risque, haïr les risques.
U, V, W, X.
Y s'écraser.
Alors, encore une chanson patrimoniale. On va distinguer dans le dossier de l'Imprimerie nationale deux choses. L'immeuble et le trésor typographique, en bonne partie classé monument historique. Alors, on va pas, il y a des ouvriers de l'Imprimerie nationale. Quelques-uns des survivants de l'Imprimerie nationale racontaient les conséquences de l'ouverture à la concurrence à partir de 1994 sur l'activité de l'Imprimerie nationale qui peu à peu a perdu ses marchés traditionnels et n'a pas, malgré une diversification à outrance pendant un moment, retrouvé d'autres marchés. On nous dit maintenant que la spécialité que l'Imprimerie nationale doit avoir, c'est le fiduciaire, enfin, ce que l'État veut voir faire par des spécialistes de la confidentialité, de la numérisation. Bon, et il y a toujours deux sites, je crois, de l'Imprimerie nationale qui fonctionnent dans ce domaine. Et le grand site parisien, lui, a été mis en vente par l'Imprimerie nationale. Bon, c'est une société à capitaux d'État apparemment privée qui est sous tutelle du ministère des Finances. Donc ça a été vendu. Je me tourne vers qui ? Vers Gilles, qui est ouvrier à l'Imprimerie nationale. Ça a été vendu en 2002 pour une somme à l'époque qui paraissait rondelette de 85 millions d'euros.
Oui, tout à fait. Et donc, parallèlement à cette vente, il y a eu un plan social qui a été mis en place, donc avec la disparition de centaines d'emplois. Donc vous imaginez un peu l'ambiance. Donc nous avons déménagé en 2005, une partie s'est installée dans une usine neuve à Choisy, qui va être vendue dans quelques mois, déjà, deux ans après. Et la partie patrimoniale s'est installée dans un local à Ivry.
Alors on parlera du local d'Ivry et de la partie patrimoniale dans un instant. Vous avez quand même été un peu surpris de voir, on parlait de la rationalisation de la politique immobilière de l'État. L'État, 5 ans après sa vente à 85 millions, racheter, oui, je ne sais pas si tout le monde le sait, racheter les mêmes bâtiments à 376 millions.
Tout à fait. Si vous voulez, malgré le contexte de plan social, on était quand même bien conscient que le bâtiment de Paris était devenu trop grand et certainement beaucoup de travaux à faire pour le remettre en état moderne, si on peut dire. Mais là, les gens, c'est la stupeur, c'est l'écœurement, c'est la rage même de voir que ce bâtiment qu'on a quitté en 2005, pour 85 millions d'euros, racheté par le groupe Carlyle, qui a fait les travaux. Alors, d'après nous, on connaît les chiffres de la presse. On parle d'une fourchette de 120 millions pour les travaux.
Donc, 5 niveaux de parking et des grands bureaux.
Exactement. Et donc, il semblerait que Carlyle, en revendant à l'État, fasse un bénéfice de 200 millions d'euros qui vont partir dans les poches des retraités américains, enfin, de compter ça. Alors, on veut bien qu'il y ait eu une inflation depuis 5 ans, mais à ce niveau-là, c'est impossible.
Alors, évidemment, au ministère du Budget, on est un peu gêné. On invoque le marché de l'immobilier, les travaux faits par Carlyle. Ces bureaux vont servir au ministère des Affaires étrangères. Alors, voilà le point de vue du directeur du service de France Domaine, M. Dubost, qui a accepté au téléphone ce matin tôt de répondre aux questions de Sophie Berda. Enfin, je le remercie parce qu'au cabinet du ministère du Budget, ça a été plus difficile d'avoir une réponse. Quant à Bernard Kouchner, il a dit qu'en effet, c'était un peu cher tout ça, mais il n'a pas prolongé son analyse plus avant.
Nous avions un ministère qui avait 9 sites dans Paris. 9 sites dans Paris. Et il va se regrouper sur 2 sites simplement, c'est-à-dire celui du historique du Quai d'Orsay et un second qui est sur la rue de la Convention. En contrepartie de cet achat, le ministère va céder l'ensemble de ces immeubles. Et au total, le coût de l'acquisition de l'immeuble de la rue de la Convention sera largement inférieur à la cession des autres immeubles. Ça n'était pas qu'une opération immobilière, cela va de soi. C'est aussi une opération de réforme de l'État où il s'agit de mettre dans les mêmes murs un certain nombre de services qui sont aujourd'hui séparés, de mutualiser un certain nombre de fonctions de soutien et d'entretien, et de réaliser par ce fait-là une opération, je dirais, d'économie au sens dépenses budgétaires, de modernisation du mode de fonctionnement de l'État et d'avoir une diplomatie du 21e siècle et non pas d'une période passée.
Non, mais on comprend bien, je pense que la vente de plusieurs sites du Quai d'Orsay, je parle à la rue La Pérouse, ça rapporte plus que ne va coûter le rachat à grands frais quand même de la rue de la Convention.
La différence entre la vente et le prix de vente et le prix de rachat en 2007, c'est 291 millions. Je me permets de compléter ce qui a été dit tout à l'heure, aux frais du contribuable en définitive. La transparence n'existe pas. Il n'y a pas moyen de chiffrer réellement les travaux. L'État s'y refuse. Le Bouygues, qui a fait les 10 travaux, les 5 étages de parking et qui a creusé la coquille, qui est seul à rester.
Ne communique pas non plus sur le sujet.
Prétend avoir une clause de confidentialité. Tout est comme ça. C'est toujours très transparent.
Enfin, moi, j'ai visité l'hôtel de la Marine restauré grâce au mécénat de Bouygues aux Journées du patrimoine dimanche. Bouygues communiquait volontiers sur les travaux qu'il fait au ministère de la Marine, à feu le ministère de la Marine, à des travaux de mécénat. Mais on comprend qu'il y a du mécénat quand il y a autant de bénéfices parfois dans d'autres secteurs. J'espère qu'il ne faudra pas refaire les bureaux tels qu'ils avaient été aménagés par Carlyle.
En principe, si, c'est prévu, ça.
Ah bon, donc le ministère des Affaires étrangères refera les bureaux.
Les conditions de travail des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ne souffrent pas l'organisation actuelle des lieux. Donc tout est à refaire. C'est-à-dire le bénéfice des travaux faits est en grande partie perdu.
Bon, alors c'est pas le plus grave, parce que de cela on peut rire et dire que d'autres opérations compensent celle-ci. Bon, et les bâtiments n'étaient que très partiellement classés, et ce qui était classé est conservé. On a fait comme d'habitude du façadisme, tout démoli derrière, et puis garder la façade de briques et de verre.
Oui, parce qu'on a inscrit, il faut dire aussi que l'inscription sur l'inventaire supplémentaire était prononcée par le préfet de région il y a assez peu de temps, c'était juste avant la vente. Et d'ailleurs, l'inscription a été prononcée, je crois bien, sur la partie la moins intéressante, c'est-à-dire sur la ceinture architecturée. Ce qu'il y a de particulièrement remarquable à l'Imprimerie nationale, c'est le centre, cette extraordinaire verrière qui a été le bâtiment a été conçu à partir du centre pour faire un lieu destiné à abriter les rotatives. Et on imaginait autour une ceinture de construction pour l'administration et déjà les activités patrimoniales de l'imprimerie.
Alors, les activités patrimoniales de l'imprimerie. Alors, venons au cœur du sujet. Alors, je crois qu'il y a ici un ouvrier qui manie à la perfection une grande partie de tous les alphabets qui étaient conservés rue de la Convention, qui sont maintenant, après un difficile déménagement, transportés à Ivry, où vous travaillez. C'est-à-dire qu'on peut composer à l'Imprimerie nationale dans quasi toutes les langues.
C'est ça. On peut composer dans 64 alphabets différents, pour lesquels plusieurs compositeurs typographes ont été formés par un professeur du CNRS pour apprendre ces alphabets et savoir les reconnaître et pouvoir reproduire n'importe quel texte dans n'importe quel caractère.
Alors vous, particulièrement, quel caractère utilisez-vous le plus souvent ?
Le plus souvent, c'était l'arabe, le russe, mais plusieurs fois, on a composé en chinois, on a composé en persépolitain, en inivite, lorsqu'il y avait des fouilles archéologiques, pour reproduire des textes qui avaient été gravés sur des boucliers ou des pierres. Et on travaille aussi pour une collection personnelle, dans laquelle on employait nos caractères également.
Et alors, il y a aussi tous les symboles mathématiques, les symboles astrologiques.
Oui, il y a tout ça. Il y a toutes sortes de... Il y a les alphabets qui comportent que des consonnes, d'autres des consonnes, des voyelles. Les alphabets sémitiques, dont les consonnes sont sur la ligne principale, les voyelles au-dessus, en dessous. Celles qui s'écrivent verticalement de gauche à droite, comme le mongol ou le fakspa, ou de droite à gauche, comme le chinois, le japonais. Et tout ce qui est idéographique aussi, comme... Les hiéroglyphes hittites ou hiéroglyphes égyptiens.
Mais tout ça, Joël, quand on voit ça, ne se présente pas de manière spectaculaire. Tout ça est rangé dans des boîtes de bois gris.
Dans des casses. Et il y a aussi un compendium, c'est-à-dire qu'on a une réserve de caractères pour ravitailler les casses au fur et à mesure qu'on utilise ces caractères. Parce qu'on fond également nous-mêmes nos caractères, puisqu'on parle des poinçons. en acier, qui frappent des matrices, qui servent de moules pour fondre les caractères. Et on est autonome. Dès que les caractères sont usés, bon, on en refond d'autres, ce qui fait qu'on travaille toujours avec des caractères neufs, aussi bien en oriental qu'en français, puisqu'on a aussi 7 ou 8 caractères qui sont exclusifs à l'imprimerie nationale, qui ont été gravés depuis François Ier jusqu'à nos jours.
Alors, tout ça, et maintenant, après le transport, un déménagement de 3 mois à Ivry, avec des réserves à Douai, un autre site survivant de l'imprimerie nationale, et c'est encore utilisé par vous? Vous êtes encore combien? 20, 18, 15, demain 5?
Une quinzaine. Et c'est vrai que l'oriental, c'était tellement important qu'on ne pouvait pas tout stocker à Ivry et qu'il y a certains caractères, des réserves de caractères qui ont été stockées à Douai, mais qu'on peut utiliser et qu'on a déjà fait revenir pour certains, d'ailleurs.
Et puis, Jean-Michel Legnaud est toujours soucieux du sort des bibliothèques. J'imagine qu'il y a une part de la bibliothèque à Douai aussi.
Également. Les ouvrages les plus prestigieux sont à Ivry-sur-Seine, mais les autres sont à Douai également, quoi. Donc, ce serait bien, c'est de pouvoir tout réunir et puis d'avoir un site, si possible, dans Paris, pour pouvoir faire visiter à l'ensemble des Français, pour pouvoir faire de la formation, faire de la recherche et puis avoir un site qui soit à la hauteur de ce patrimoine.
Ah bah, c'est sûr que ce serait pas mal. Vous avez encore, Nelly, quelques activités quand même, qui sont pas seulement celles de consultation des chercheurs. On produit encore dans l'atelier où vous êtes à Ivry quelques productions?
Bon, on produit encore des poinçons, c'est-à-dire qu'on travaille manuellement. C'est-à-dire, comme mon collègue Jouet vient de vous le dire, s'il y a un problème au niveau des plombs, donc on revoit la matrice abîmée. Donc moi, je ressors un poinçon. Si ce poinçon est abîmé, donc je le refais totalement à l'identique, en acier. Donc on a encore cette production-là. Et celle aussi, donc, de pouvoir ouvrir la chambre forte, qui a été entièrement stockée donc, à Ivry. Donc on propose les pièces aux chercheurs pour qu'ils puissent faire leurs études.
Bon, c'est sûr que tout n'est pas perdu, tout est conservé. Mais enfin, quand même, on se dit... Alors, je vois ici un des animateurs au long cours du comité qui s'appelle maintenant Garamond Patrimoine, qu'un meilleur sort pourrait être réservé à cette collection. Jérôme Peignot, on a néanmoins, d'après ce que j'ai compris, rien jeté. Ce n'est pas comme quand Ben Bella, au moment de l'indépendance algérienne, a fait fondre l'alphabet berbère en 1962 ou 1963, quand il est arrivé au pouvoir.
Non, je précise, il y a 230 000 poinçons d'acier, hein, dont quelques-uns remontent à François Ier, dont le fameux Garamond. Il y a 28 000 poinçons pour les gravures de médailles. Il y a des caractères d'imprimerie dans 80 langues différentes. Et il y a une bibliothèque également de 40 000 volumes qui ne parle que d'écriture et de typographie. Bon, qui est un trésor aussi national, la bibliothèque, il ne faut pas l'oublier. Bien. Tout récemment, je crois que c'était hier, Sarkozy...
Non, c'était ce matin.
C'était ce matin. A fait une déclaration à propos de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Et il a déclaré dans cette... Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on ajoute le mot patrimoine à l'architecture, parce que j'ai fait partie de colloques où je suis allé soulever la question de l'imprimerie nationale dans des colloques d'architecture et on m'a repoussé du plat de la main. Je me souviens de M. Toubon, il ne m'a même pas écouté. Parce que le patrimoine ne comporte pas l'imprimerie nationale. Bien. Alors, M. Sarkozy a déclaré, donc aujourd'hui même, il ne sert à rien d'être si fier de notre patrimoine et de continuer à mégoter pour l'entretenir. Or, je précise que l'imprimerie nationale est sous la tutelle, vous l'avez dit tout à l'heure, du ministère des Finances. C'est d'ailleurs le problème. Et je vous rappelle que M. Sarkozy a été ministre des Finances. Et qu'est-ce que M. Sarkozy a fait de ce patrimoine quand il était ministre des Finances, qu'il était déjà en danger quand il était au ministère des Finances? Rien.
Mais si, il a demandé à Cécilia Sarkozy, qui était à l'époque conseillère technique, de vous recevoir. Bon.
J'en ai parlé avec M. Bosque, qui était l'adjoint, le chef de cabinet de M. Denis Le Vape, et il m'a dit, mais rendez-vous compte, Mme Sarkozy est allée à l'Imprimerie nationale. Et je lui ai demandé, mais quel est le résultat de cette visite? Et il ne m'a pas répondu. Enfin, c'est une plaisanterie. Bon, le problème, Le problème est que, justement, cette tutelle est restée entre les mains du ministre des Finances. Et il faudrait beaucoup qu'elle soit transférée au ministère de la Culture. Or, le ministre de la Culture, visiblement, se retranche chaque fois qu'il est question de prendre une décision derrière le fait « Ah, ça n'est pas moi, c'est le ministre des Finances ». Alors, on ne sortira jamais de cette affaire tant qu'on n'aura pas levé cette tutelle du ministère des Finances.
Alors, on peut s'arrêter là, sur ce point, Jérôme Peignot, parce que le spécialiste du droit, qui est Jean-Michel Legnaud, enfin, du moins à quelques-unes de ses meilleures heures, peut peut-être réagir. On pourrait peut-être trouver aussi une structure interministérielle pour sauver l'atelier, le trésor typographique de l'Imprimerie nationale.
Ben, ce qui est assez compliqué dans l'affaire des poinçons et des caractères, c'est que c'est comme nous les ont expliqué ces messieurs, c'est que c'est à la fois un
N'oubliez
patrimoine.
N'oubliez pas Nelly quand même.
Oui.
Il y a quelques dames parmi les ouvriers de l'Imprimerie nationale.
Le prénom, c'est messieurs et Nelly. Donc. C'est que c'est à la fois un patrimoine, puisque tout cela a été classé au titre des monuments historiques depuis 60 ans, à peu près.
Les poinçons
ont été classés, bon.
Les poinçons, pas les caractères.
Et alors,
pas les machines.
Et en même temps ces objets ont aussi une valeur d'usage. D'ailleurs, dans l'ancien système, il y a encore 20 ans, à l'Imprimerie nationale, ce trésor national n'était pas connu. Il n'était pas fréquenté en tant que trésor national. Il n'était pas... La fréquentation muséale à l'Imprimerie nationale était quasi nulle. Moi, je me souviens les avoir vus au cours de mes études, emmenés par mon professeur d'histoire du livre, Henri-Jean Martin, mais c'était quand même confidentiel. Oui. Alors, la question, c'est que si on admet, et il faut l'espérer, que ces poinçons et ces caractères ont encore valeur d'usage, parce qu'il faut imaginer qu'il y a encore une production de luxe, il faut concevoir une structure qui soit mixte, à la fois destinée à l'usage et destinée aussi à la visite. Alors, du coup, attendez, je conclue. Ça ne peut pas être sous le seul coup du ministère de la Culture, parce qu'il serait bien incapable de gérer une imprimerie. Il faut que ça reste sous la tutelle du ministère qui s'occupe de l'Imprimerie nationale.
Alors, on n'en sortira pas.
Non, si, il faut créer une solution. On crée une structure mixte.
Il y a une solution. Peut-être connaissez-vous l'arrêté du 23 décembre 2002 érigeant le mobilier national et les manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie en un service de compétence nationale et qui a une certaine... indépendance par rapport au ministère. Pourquoi ne pas ériger l'Imprimerie nationale sous ce même label de l'arrêté du 23 décembre
Alors, c'est en effet le choix qui se trouve maintenant devant beaucoup d'institutions. Alors, un service de compétence nationale comme le mobilier national ou alors un type d'établissement public. Parce que le problème se pose aussi à la Monnaie de Paris.
La mobilier nationale ne produit rien, de toute façon, il conserve. Là, il ne s'agit pas seulement d'une activité conservatoire. On peut se rapprocher effectivement de la manufacture de Sèvres, ce qui produit effectivement. Mais de toute façon, la structure, elle est à envisager par les spécialistes s'il y a une ambition politique autour de cela. Je crois que la première chose, c'est d'abord de s'assurer qu'il y a une ambition politique. Elle n'apparaît pas vraiment, puisqu'on... Comme autrefois les plans reliefs qu'on expédiait aux quatre coins de la France pour éviter d'avoir à s'en occuper, on a dispersé ces collections.
Alors, les choix maintenant, les choix pour l'avenir. Hein. Parlons, ne revenons pas sur les querelles passées. Alors, il y a la possibilité de la dissémination. C'est-à-dire que des musées pourraient se porter acquéreurs.
Pardonnez-moi une petite phrase. Choix pour l'avenir dont nous discutons avec le ministère de la rue de Valois. Donc, le ministre de la rue de Valois, Madame Albanel, commence à penser que peut-être elle pourrait avoir cette fameuse tutelle sur l'Imprimerie nationale. Hein? Donc, il n'est pas impossible, ce transfert n'est pas impossible.
À condition que la fonction de production, comme le disait Jean-Michel Legnaud, puisse continuer à être assurée. Alors, est-ce qu'on peut vous présenter, monsieur, oui. Est-ce qu'on peut imaginer des perspectives d'avenir? Ne revenons pas sur les grands principes généraux. Je vois que vous voulez citer une tribune de Libération de l'année dernière, mais le temps est arrivé maintenant de mettre monsieur Sarkozy, qui ne veut pas mégoter sur le patrimoine, devant des choix concrets.
De quoi s'agit-il ? C'est-à-dire que moi, je fais aussi partie du collectif Gare à mon patrimoine et moi-même, je suis informaticien. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une histoire de nostalgiques du plomb qui veulent juste continuer à faire des livres à l'ancienne ? Pas seulement. Il s'agit de questions de culture de l'écrit. Vraiment, on a besoin... cette chaîne typographique complète, depuis les poinçons jusqu'à l'impression à caractère mobile, est devenue pratiquement un exemple unique. Hein. Maintenant, assez souvent, vous avez des artisans qui composent au plomb à l'ancienne, mais ils n'ont pas eux-mêmes la possibilité d'avoir leur caractère. Et alors, sans parler même de la gravure des poinçons, qui est vraiment maintenant une exception. Mais c'est pour nous, c'est important pour la typographie de demain, c'est important pour les informaticiens que nous sommes. Bien sûr, on sait que maintenant, la fabrication des livres passe par l'ordinateur, mais... on ne peut comprendre bien la typographie d'aujourd'hui et inventer la typographie de demain, y compris pour l'écran, que si on comprend aussi et si on maintient vivante cette typographie-là. C'est pour ça que nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un projet vivant qui rassemble autour de cet atelier et avec des prolongements, à la fois des questions d'études aussi bien graphiques qu'anthropologiques, qu'historiques, et aussi de recherche, de formation et de création aussi, de création artistique. Donc,
alors,
c'est ça qu'on voudrait faire.
Vous êtes un ancien de l'école estienne, Jérôme Peignot. Peignot, c'est un vieux nom de la typographie. Prenons une ou deux possibilités d'implantation, parce que le temps manque pour continuer de développer les principes généraux. L'école estienne à Paris.
Il y a plusieurs projets dont je vais vous parler. Mais petite parenthèse, nous avons lancé à Gare à mon patrimoine une espèce de manifeste qui a été signé, tenez-vous bien, par 25 000 personnes, des professeurs, des universités dans le monde entier, Columbia...
Oui, mais on est d'accord, on l'a raconté tout ça à France Culture en son temps. Mais maintenant, puisque vous vous adressez au président de la République, alors les pistes possibles.
Pistes dont j'ai parlé à la secrétaire du livre, la chargée du livre au cabinet de Mme Albanel, qui s'appelle Mme Audouard, dans le bureau de laquelle je me trouvais, oui c'est ça, Mme Audouard, dans le bureau dans lequel je me trouvais au mois de juin, elle ne m'a toujours pas répondu. Nous avons proposé un projet d'abord, puis ensuite deux. Alors, il y en a deux. Il y a le projet de Bobigny, dont ces messieurs vont vous parler, qui est, au fond, qui consisterait, pour en gros, ils vont vous donner plus de détails, de lier ce nouveau centre que nous appelons Cité à une université. Il se trouve que c'est l'université de Paris 13, de Montfermeil, parce que...
De Villetaneuse, vous voulez dire.
Rien ne peut se passer sans le soutien, évidemment, et sans l'apport de la jeunesse. Alors,
allons-y sur la Maison de l'Illustration. Jean-Michel Legnaud, vous connaissez un peu la Maison de l'Illustration ? Oui, c'était là qu'on fabriquait l'illustration, le journal ?
La Maison de l'Illustration, c'est un des merveilles des bâtiments de l'imprimerie dans les années 30 et qui s'est trouvé... poursuivre son activité après la guerre, puis en déshérence, et on y a installé maintenant l'université de Villetaneuse.
Mais vous me disiez qu'il y avait un peu de gabegie là-bas. Je révèle nos conversations d'avant émission.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un intervalle très long au cours duquel le bâtiment est resté complètement à l'abandon et il a été entièrement elginisé, si vous voulez parler.
Pardon ?
Elginisé, si vous parlez en termes polis. Il ne restait plus un sol, plus un radiateur, plus un tuyau de chauffage central, plus une poignée de porte, rien. Restait seulement ce qui n'avait pas pu être emporté, c'est-à-dire les murs. Alors, ce qui fait que c'était une déperdition très grave, et l'université de Paris 13 le regrette beaucoup. Alors, on a donc repris à grands frais, comme on fait souvent en France. C'est fréquent, finalement, ces bâtiments qu'on abandonne complètement et qu'on reprend ensuite. On a repris en grands frais le bâtiment d'ancienne illustration, mais on a perdu énormément. Hein.
Oui. Là, si on va dans le 93, il y a le soutien des collectivités locales. Parce que, évidemment, on se retrouve toujours devant les trésors nationaux quand il y a interrogation, à faire la quête devant les collectivités locales. Et celle de la Seine-Saint-Denis s'engage.
Il est certain que la Seine-Saint-Denis est très active sur le plan du patrimoine, surtout ce type de patrimoine, le patrimoine du travail, le patrimoine industriel. Ça l'intéresse beaucoup.
Ça vous irait, Gilles, la Maison de l'Illustration à Bobigny ?
Ah oui, c'est un projet dont on entend parler depuis quelques temps déjà, quelques années, bien sûr.
Vous disiez tout à l'heure, Paris, ce serait mieux.
Non, mais évidemment, au départ, nous, on pensait que Paris, parce qu'au niveau international, pour les visites, etc. Mais en même temps, nous, ce qu'on veut, c'est un projet viable, c'est qu'on puisse continuer à travailler, c'est, quel que soit le coin, si on peut dire. Alors, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, nous, à Ivry, l'atelier, il est viable. Tout fonctionne. Hein. Le problème, c'est qu'on est loin de tout et c'est pas du tout évident pour les gens de venir nous. On peut même pas faire de visite. C'est trop petit, vous voyez. C'est...
Paris, Jérôme Peignot va nous parler du projet de l'école estienne. Encore faut-il que la collectivité locale parisienne soit intéressée. Je ne suis pas sûr, Jean-Michel Legnaud, on ne dit pas, par exemple, quelle a été l'évolution des fonds d'acquisition des musées parisiens sous le mandat de la Noé. On est arrivé à près de zéro, je crois. C'est pas nécessairement une priorité, le patrimoine et celui-ci, pas plus que les autres de la municipalité de la Noé.
Je crois aussi qu'il y a une question de symbole dans le patrimoine. On n'imaginerait pas un seul instant qu'un Rembrandt ayant appartenu aux collections royales puisse partir entre les mains d'une collection d'un musée municipal. On n'imaginerait pas du tout. Là, il s'agit des poinçons qui étaient administrés par... dans le cadre de la police de l'écrit et dans le cadre aussi du mécénat royal en matière de livres, administré directement par l'administration du souverain. C'est quelque chose qui doit rester, qui est éminemment régalien, ce mot, et pas toujours...
Jérôme Peignot.
Non, il faut se souvenir que, pour ce qui est de Bobigny, la municipalité et le conseil général de la Seine-Saint-Denis sont d'accord. L'université a été d'accord à un moment, mais puis nous ne savons plus très bien. Il y a une espèce de flottement du côté de l'université. Mais la balle est dans le camp du ministère de la Culture, puisque c'est Madame Albanel qui maintenant s'occupe du dossier, puisque le ministre des Finances, lui, ne fait rien. C'est pas difficile. Fait rien. Donc,
Et le projet parisien ?
Alors, le projet parisien, c'est l'école estienne. Enfin, au fond, l'école estienne, c'est une pépinière de gens qui comme ces messieurs... savent, comment dire, se connaissent...
Et Nelly, madame.
Nelly. Sans Nelly, il n'y aurait plus de poinçons. Elle est la seule à entretenir les poinçons. Elle mériterait d'être considérée comme un...
Un trésor vivant.
Un trésor international. Non, non, mais c'est vrai, il y a une espèce de scandale de laisser tout ce trésor absolument entre...
L'école estienne.
Une poignée de personnes qui, en dépit de leur valeur, ne peuvent pas...
L'école estienne.
Alors, l'école estienne, il y a évidemment des gens qui apprennent ce métier et qui continuent de l'apprendre, bien qu'il s'agisse de plomb. Parce que, comme le disait très bien Perrotin tout à l'heure, sans connaissance du plomb, on déraille complètement en matière sur les ordinateurs. Alors, mais seulement, voilà, l'école estienne est dans un espace un peu trop étroit. Il lui faudrait s'agrandir. Elle voudrait, Madame Cumbuche, qui est la directrice de l'école, voudrait s'agrandir, voudrait tout cela. Mais seulement, voilà, qui paye quoi, parce qu'en plus, alors le statut de l'école estienne est très différent de celui de Bobigny, par exemple, parce que l'école estienne relève de l'autorité de la ville de Paris et du ministère de l'Éducation nationale. Or, le ministère de l'Éducation nationale, jusqu'ici, ne s'en est pas occupé de ce sujet. Tout le monde se refile le bébé.
Alors, on pourrait parler du projet de Lyon, on était à Lyon il y a peu, du projet de Strasbourg, parce que Gutenberg, c'est un héros de Strasbourg, du projet du musée de l'imprimerie de Nantes. Il y a un petit peu le même phénomène qu'autour du musée de la Marine. Il y a des villes qui font des offres pas nécessairement concrétisables. Monsieur ?
Voilà, je voudrais dire qu'il faudrait... d'une part, se reporter sur Internet, sur le site Garamond Patrimoine.
On... Mais ça, on trouve tout ça sur notre site. Oui, oui.
Mais je voudrais dire aussi que ce qui est important, c'est de conserver un ensemble, c'est-à-dire le cabinet des poinçons, la bibliothèque, qui a 30 000 volumes, de très précieux, et l'atelier du livre, c'est-à-dire le savoir-faire. Et il ne faut pas disperser, c'est un ensemble. Or, les poinçons sont monuments historiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les détruire. Ce sont les plus petits monuments historiques qui soient. Ils mesurent 5 cm de haut. Mais il faut les garder. Il ne faut pas les mettre dans des pièces, dans des caisses où ils vont s'abîmer. Et dans 50 ans, nos successeurs se moqueront de nous parce qu'on n'aura pas su garder ce trésor national.
Oui, mais je sais bien tout ça, mais moi, je vais vous renvoyer la lettre d'intention du ministre, du président de la République à Madame Albanel est très claire. Je vais vous ramener à des considérations économiques que le président de la République aime bien rappeler. Comment vous allez valoriser tout ça? Parce qu'un monument historique, monsieur, si petit soit-il, je suis au regret de vous le dire maintenant, doit gagner sa vie. C'est la nouvelle doctrine. Pendant les journées du patrimoine, à Saint-Denis, une ville que connaît bien Jean-Michel Legnaud, première, on a pu visiter les ateliers de moulage de la Réunion des musées nationaux. Les musées gagnent leur vie en faisant du moulage.
Bonjour tout d'abord. Donc moi, je vais vous expliquer la fabrication d'un moule silicone, élastomère. Deux façons de faire. La première, le moule estampage. La seconde, la coulée sous chape.
Alors, vous en pensez quoi d'ici de l'atelier de moulage?
Je découvre le lieu dont j'avais déjà entendu parler souvent et que j'avais jamais visité. Je suis assez émerveillée de la qualité des pièces qui sont présentées. J'en viens à douter de ce qu'on voit dans les musées tellement ça ressemble à l'original. Et je trouve ça absolument super, oui, de découvrir les différentes étapes qui font partir de la copie pour arriver en fait à une copie plus vraie que nature, en particulier avec les patines, parce que c'est étonnant comme même du plâtre peut apparaître comme du bois. Même des sculptures africaines donc, peuvent aussi être retranscrites en plâtre, et ça, je n'aurais jamais imaginé. Donc, je suis sous le charme.
C'est un produit qui se retire avec simplement une éponge humide. Mais contrairement au rhodoviol, celui-ci, quand il sèche, il pèle. Donc, on a juste à le prendre et à le retirer comme quand nous, on a un coup de soleil et qu'on pèle, en fait.
Ah bah, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le rhodoviol, vous, Jean-Michel Legnaud, mais vous savez ce que c'est qu'un bilan comptable, hein?
Non, c'est très bien qu'il y ait que là aussi la RMN conserve des savoir-faire en matière de moulage, mais il serait intéressant de savoir si c'est une branche bénéficiaire de cet établissement qui n'a jamais brillé par sa rentabilité financière.
Oui, c'est vrai qu'on d'ailleurs, a créé la RMN pour qu'elle rapporte de l'argent et parfois elle en a fait perdre.
Parce que c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de valorisation, mais en même temps, depuis le début de cette émission, nous ne parlons que d'opérations où la collectivité
négative.
Publique perd beaucoup d'argent.
Alors, comment on peut valoriser les poinçons? Enfin, je pose la question la question de manière sommaire. Alors, Monsieur Perrotin, vous qui êtes l'informaticien de Garamond Patrimoine.
Mais on sait bien qu'il y a des enjeux avec vraiment un potentiel, y compris économique, parce qu'il ne s'agit pas de réduire les choses à la caractère économique. Pour monter un projet, on sait bien qu'il y a l'importance de l'État et des collectivités locales. Des projets comme ça, on sait comment ils se montent.
L'un et l'autre comptent. Et puis vous êtes obligés, pour leur faire plaisir au moins, je ne sais pas quels en seront les résultats, de donner des exemples possibles de valorisation.
Les perspectives sont les perspectives d'innovation technologique, notamment en articulant, par exemple, ces collections qui ne sont pas numérisées pour la plupart, et aussi en faisant de la recherche. Il y a un travail énorme à faire sur la typographie à l'écran. C'est vraiment, par exemple, un dossier qui est complémentaire de celui de la Bibliothèque numérique européenne. Parce que quand vous allez sur Gallica actuellement et que vous cherchez, mettons un texte classique, vous prenez une tirade de Cyrano de Bergerac et vous dites, avant quelqu'un allait chercher dans un volume, maintenant il va aller le chercher sur Gallica, par exemple. Mais si vous voyez la manière dont cette tirade, la tirade des noms merci par exemple, si vous regardez comment elle est typographiée, et vous allez voir que c'est dramatique, c'est-à-dire que les italiques ne sont pas placés, les tirets ne sont pas placés, les guillemets ne sont pas les bons. Pourquoi? Parce que il faut s'en occuper de la typographie, ça se fait pas tout seul. On a les moyens informatiquement, c'est-à-dire que on va vers une typographie numérique de qualité, mais il faut s'en occuper, notamment, par exemple, pour la typographie francophone. La typographie française a beaucoup de particularités par rapport aux autres. On met des espaces là où d'autres n'en mettent pas. L'apostrophe compte alors qu'elle compte beaucoup moins pour d'autres. Mais tout ça, il y a un potentiel, il y a un potentiel d'innovation, il y a un potentiel économique.
Alors, on continue très, très rapidement. Vous savez, c'est comme Cyrano sous le balcon de Roxane. On offre des perspectives, pas en bouquet, hein, mais en touffe à ceux qui voudraient valoriser l'imprimerie nationale. Très vite, Jérôme Peignot.
Un potentiel culturel, n'oubliez pas qu'il y a des caractères d'imprimerie dans 80 langues différentes, avec des gens qui peuvent s'en servir, qui devraient s'en servir. Des gens, par exemple, liés à l'école orientale. Et puis, n'oubliez pas non plus les constructivistes russes qui ont fait des œuvres d'art superbes, sublimes, les Inski par exemple, à partir de la typographie.
Voilà. Et on pourrait, je pensais à Ilias qui travaillait pour Chanel, imaginez votre travail, Nelly y pense, pour les textiles de demain.
Mais disons que nous, enfin, j'ai quelques-uns de mes camarades, de mes collègues, dont Nelly d'ailleurs, qui ont pas mal d'idées sur des produits, ce qu'on appelle des produits dérivés, c'est-à-dire qui ne sont pas liés vraiment à la bibliophilie, mais imprimer des choses en caractères rares, etc. Et sur du beau papier, faire, vous voyez, alors le problème, c'est qu'il ne faut pas dépasser un certain prix, parce qu'il y a des gammes de prix dans lesquelles, vous savez, qu'on n'arrive pas à vendre. C'est assez compliqué pour nous, c'est un nouveau métier. Nous, on est des artisans, si on peut dire. Donc nous, on découvre un nouveau monde et on a des idées, mais c'est pas facile à mettre en place. Si.
Alors les idées sont devant les valorisateurs, ceux qui voudront prendre en charge le dossier sans mégoter. C'était notre contribution aujourd'hui. Couvre pour le public de Radio France, celui de France Info, la cité de l'architecture et du patrimoine.
D'accord. Il y a du monde ce soir ?
Oui, assez.
Combien de personnes ? Combien de visiteurs ? Combien d'invités ?
Je crois 6 000 sur toute la soirée.
Mais ils sont très nombreux encore à être bloqués derrière les portes, là, pas rentrer.
Oui, et il commence à pleuvoir.
Il pleut déjà. Vous aviez prévu ça ?
On en avait entendu parler, on a pensé avec le beau temps de la journée qu'on y échapperait. Malheureusement, ça arrive. Mais bon, on va les faire rentrer un peu plus vite.
C'est bon signe.
Là, la foule se presse pour la soirée anniversaire présidée par Jean-Paul Cluzel pour les 20 ans de France Info. Évidemment, je ne vais pas vous faire des remarques désagréables sur la cité que Radio France fête depuis ce matin, Jean-Michel Legnaud.
Non, mais hier aussi, il y avait énormément de monde à la cité de l'architecture et du patrimoine. La question, c'est de savoir si ce public va se fidéliser, parce que cette montagne sacrée de Chaillot effraie un peu le visiteur. Il y a un changement de métro à Franklin et c'est un peu dissuasif pour une fréquentation régulière. Tout est fait pour qu'il y en ait une, avec un centre de documentation très important, mais espérons que...
En tout cas, il y aura plus de monde pour voir dans le centre de documentation la copie des fresques de Saint-Savin qu'à Saint-Savin même.
Actuellement, à Saint-Savin, on ne peut plus rien voir.
On ne peut plus rien voir parce qu'il y a chantier.
Il y a un chantier.
Et avant, il y avait quelques milliers de personnes par an.
Et une partie de la voûte a été, des peintures de la voûte a été mise à plat.
Ben, c'est ce que nous avons tenté de faire ce soir sur deux dossiers, l'Imprimerie nationale et les collections photos gérées par le ministère de la Culture. Alors à propos de foule, nous serons à Chambéry jeudi et vendredi devant l'ancien Sénat de Savoie, au bar du Palais. Autrefois, il y avait des foules pour voir le Saint-Suaire en 1500. Hein. C'est un petit peu comme les journées du patrimoine. Georges Niva sera notre invité jeudi. Et puis demain, ici, nous parlons avec des Grecs de la Grèce. L'émission a été réalisée par Laurent Rousseau avec Yves Lehorse, Bernard Quentin est préparé par Sophie Berda. 19h30, c'est l'heure des nouveaux chemins de la connaissance à la Maison de Radio France.